Dans le courant de l'année 2008, avait lieu à l'Université de Bruxelles, au SEPSI, Centre d'études de la psychanalyse, un colloque sur le thème « Lacan et le théologique ». On sait en effet, si on lit Lacan soigneusement, qu'il a été extrêmement influencé par tout un courant de la théologie chrétienne, et on en retrouve par exemple tout un certain nombre d'échos dans les études que lui a consacrées quelqu'un comme Jean-François Balmès. Il s'agissait donc de réfléchir à nouveau frais sur les rapports de Lacan à la pensée religieuse, au-delà évidemment de la religion comme paranoïa ou comme névrose obsessionnelle, et de voir en quoi sa pensée était structurée à la fois par des gens comme Saint-Augustin, comme Thomas d'Aquin ou comme éventuellement Nicolas de Cuse. Il y avait beaucoup de participants, dont par exemple Raymond Sublon, dont on sait qu'il a enseigné très longtemps à l'Université de Strasbourg, comme Serge Tribolet, qui est psychiatre à l'hôpital de la Maison-Blanche et qui en même temps est un spécialiste de la mystique chrétienne, et beaucoup d'autres psychanalystes. Aujourd'hui, les éditions EME, les éditions modulaires de Belgique, publient les actes de ce colloque, et il a semblé assez important pour qu'on lui consacre véritablement une émission en compagnie, que l'on retrouvera ici, de deux participants, Jacques Lebrun, directeur d'études émérite à l'École pratique de hautes études dans la section des sciences religieuses, auteur par ailleurs du livre fameux « Du pur amour » de Platon à Lacan, et Gérard Haddad, psychiatre, psychanalyste, qui a été lui-même analysé par Lacan et auteur du « Péché originel de la psychanalyse » et « Du jour où Lacan m'a adopté ».
Il était extrêmement frappant de voir comment l'œuvre de Lacan peut difficilement se comprendre sans avoir l'arrière-plan théologique. Je dirais ici, pour préciser le vocabulaire, distinguons le théologique, le mystique, le religieux, le confessionnel. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça ne veut pas dire que l'œuvre de Lacan prenne place dans un ensemble confessionnel, que l'on puisse dire purement et simplement Lacan se trouve dans un ensemble qu'on pourrait appeler chrétien ou catholique. Ce n'est pas de ça, je crois, qu'il s'agit. L'œuvre de Lacan peut se comprendre en rapport à la fois avec du théologique, c'est-à-dire ce qu'était la théologie et ce qui pouvait être exprimé par la théologie dans la première moitié, en gros, du XXe siècle. D'autre part, et ce qui déborde la théologie, qui n'est pas la théologie, d'autre part, par rapport à la mystique. Je crois que les deux choses sont assez différentes et les deux choses ont leur importance dans l'œuvre de Lacan. Lacan peut s'expliquer, son œuvre peut s'expliquer par mille raisons, mais je crois qu'on ne peut vraiment la comprendre que si l'on a fait ce détour, ou si l'on a centré, d'une part sur la question théologique et d'autre part sur la question mystique. La théologie, à l'époque, disons au milieu du XXe siècle, à l'époque où Lacan a pensé, a écrit, a enseigné, la théologie, c'est à la fois le rapport avec une tradition de pensée, c'est aussi le lieu où se sont présenter les conflits les plus violents, je crois, de la pensée au XXe siècle. Et cela a été occulté largement dans le catholicisme, mais autour de la question du modernisme. Lacan se trouve avoir pensé, avoir vécu à une époque dans les lendemains du modernisme, au moment où la théologie, et en particulier la théologie catholique, mais pas seulement la théologie protestante aussi, se trouvait dans une situation de crise extrêmement forte, non seulement parce que le développement des sciences, qu'il s'agisse de la philologie, de l'archéologie, etc., de l'orientalisme, avait bouleversé les fondements même de ce qu'était jusque-là la théologie, c'est-à-dire les sources de la pensée théologique, qu'il s'agisse de la Bible, des pères, etc., mais aussi parce que avec le modernisme, se sont posées des questions tout à fait centrales, qui étaient à la fois centrales pour la théologie et pour la pensée en général. Je prendrai simplement un point précis qui, je crois, est tout à fait important dans le cas de Lacan, mais au-delà du cas de Lacan. Le modernisme, ce qu'on appelle le modernisme dans l'Église catholique, mais largement dans la pensée du début du XXe siècle, s'est développé à partir d'une réflexion aiguë, une réflexion en crise, sur la question de l'expérience. Cela commence évidemment au XIXe siècle avec l'œuvre tout à fait centrale, même si on la redécouvre seulement aujourd'hui, de William James. William James, aux États-Unis, a développé toute une pensée, toute une philosophie de l'expérience, et qui a eu des conséquences considérables dans le champ des différentes confessions religieuses. Centrer la question religieuse sur la question de l'expérience, cela avait des conséquences tout à fait fondamentales. D'une part, cela permettait de redistribuer, si l'on veut, les sources mêmes de ce qu'était la religion, mais au-delà de la question religieuse, centrer ainsi les choses sur l'expérience, c'est quelque chose qui intéresse la pensée très au-delà de ce qu'on appelle de façon très très précise et finalement limitée la théologie. Et Lacan se trouve donc venir dans ce moment de crise, et dans un moment de crise également où, à partir de cette question de l'expérience, va être repensé de façon radicalement différente ce qu'on appelle traditionnellement, depuis le Moyen-Âge et surtout depuis le XVIIe siècle, la mystique. La mystique va être repensée au début du XXe siècle, à l'aune, j'allais presque dire, à l'aune de cette question de l'expérience. Il s'agit, dans le catholicisme de l'abbé Bremond, il s'agit aussi d'un esprit tout à fait supérieur qui a été largement marqué par le modernisme, qui est Jean Baruzy. Jean Baruzy, qui fut le professeur de philosophie de Lacan. En particulier, sa thèse tout à fait fondamentale sur Saint Jean de la Croix et le problème de l'expérience mystique, et le titre lui-même nous met le doigt sur la question centrale, cette question de l'expérience, et d'autre part, à des recherches philosophiques sur ce qu'est le langage mystique et le rapport entre l'expérience et le langage. Et Baruzy, là je crois, dès les années 20, la thèse de Baruzy était de 1924, dès ces années-là, Lacan étant encore tout jeune homme, préparait sa thèse dans les années suivantes, Baruzy, je crois, a mis la recherche sur la mystique, l'a posée dans un sens qui sera extrêmement fécond, c'est-à-dire la recherche de ce qu'est l'expérience de l'écriture mystique. La mystique comme écriture et comme expérience d'écriture. Lacan fut peut-être sous l'effet de la lecture de la thèse de Baruzy, également la lecture d'une autre thèse fondamentale parue dans ces années 20, la thèse d'Alexandre Coiré sur la philosophie de Jacob Boehm. Je crois que ces deux œuvres, qui sont des œuvres inaugurales, des œuvres inaugurales de la pensée, de la réflexion sur les religions et sur la mystique dans ces années, ces deux œuvres furent connues de Lacan, et Lacan, dès l'époque où il rédige sa thèse, Lacan nous montre qu'il aborde la question mystique, et il l'aborde dans sa thèse à propos du cas de paranoïa qui fait l'objet de son travail. Et lorsque Lacan étudie les poèmes ou les écrits de sa patiente, aimée, lorsqu'il les étudie, nous pouvons, et je crois que c'est tout à fait fructueux et intéressant, nous pouvons analyser la façon dont Lacan étudie les textes de sa patiente. Il les étudie, évidemment toute proportion gardée, comme l'historien, et comme un historien formé à l'école de Baruzy, étudie les textes mystiques du XVIIe, du XVIe ou du XVIIe siècle. Donc c'est une voie d'accès, une voie d'accès à ces questions religieuses.
Lacan a pointé, a souligné le fait que le sentiment religieux est très important dans la subjectivité. Sentiment religieux qui prend des formes extrêmement variées, qui se réfugie dans les endroits les plus inattendus, que ce soit dans les institutions analytiques même, n'est-ce pas, l'IPA l'a qualifié d'église, que ce soit dans des institutions politiques, que ce soit, enfin, le religieux, on peut dire d'une certaine façon, le sentiment religieux est partout. Et il tenait à ce que notre rapport au religieux soit analysé. Et ce qu'il appelait le nettoyage de la mousse religieuse. C'est assez étonnant d'ailleurs ce qu'il dit à ce sujet, puisque un des endroits dans lequel il a trouvé que on a dégonflé cette mousse religieuse, je vous le donne en mille, c'est dans les années 70, par là, 72, c'est le Talmud, qui est un texte religieux. Il disait que le Talmud s'est occupé de dégraisser la mousse religieuse du texte biblique. Et au fond, ça rejoint un peu le reproche que Jung faisait à Freud. Occupez-vous de votre sentiment religieux, lui disait-il. Lacan avait une haine du religieux. Cet intérêt pour le religieux n'était pas du tout lié à une sympathie pour la chose. Au contraire, il pensait que cette mousse là, obstruer un peu nos ménages, obstruer notre démarche, notre intelligence, notre approche du monde. Et donc, il voulait que l'on s'en débarrasse, ou qu'on la réduise, car c'est tout à fait... On ne parvient pas à supprimer... Ça rejoint, je pense, aussi tous les travaux des anthropologues qui montrent combien le sentiment religieux habite l'homme, même si cet homme, ce sujet, se déclare athée. Ça a été quelque chose qui, dans mon analyse avec lui, a été très importante. Il a toujours poussé à ce que je m'intéresse à ses affects, à ce sentiment là, qui, à ma grande surprise, était apparu dans mon analyse. L'analyser, c'est-à-dire prendre du recul.
Constante chez Lacan de réflexion sur les grands textes théologiques. En particulier, ce qui est extrêmement frappant lorsqu'on suit son œuvre, non pas qu'il en ait parlé fréquemment, non pas qu'il y ait des citations explicites, Lacan ne donne pas de citations avec de références, sinon exceptionnellement, mais c'est l'importance que tient pour lui l'œuvre de saint Augustin. Et je crois que là, quelques-unes des idées centrales, des idées cardinales, pour ainsi dire, de la pensée de Lacan, sont marquées par l'influence de Saint-Augustin. Je pense par exemple à ce qui est le schème tout à fait fondamental dans son interprétation de la mystique et ce qui revient constamment dans son œuvre depuis la fin des années 30 jusqu'aux années 70. C'est-à-dire l'explication de la mystique par cette opposition augustinienne, centrale chez augustinienne, entre l'utilisation et la jouissance. Entre ce que, dans le De Doctrina Christiana, saint Augustin développe en opposant le outil, le verbe outil, utiliser, et le verbe fruit, jouir. Et je crois que c'est une des sources, évidemment ce n'est pas la seule, il ne s'agit pas de faire de Lacan un disciple, entre guillemets, de Saint-Augustin, mais c'est une des sources de cette élaboration lacanienne, qui est tout à fait fondamentale dans les années ultérieures, de la jouissance.
Alors, lorsque vous parlez de Saint-Augustin, Jacques oui. Lebrun, est-ce qu'il n'y a pas effectivement un rapport extrêmement fondamental? Je veux dire par là qu'au-delà même du texte auquel vous avez fait référence et qui permet de préciser les choses. Parce qu'on sait très bien qu'en français, la jouissance, c'est aussi bien la jouissance sexuelle, d'une manière, que la jouissance, c'est jouissance de, j'ai jouissance de tel bien. Parce que là, on voit très bien que la référence à Saint-Augustin permet de clarifier beaucoup les choses. Mais si je me rappelle bien, Lacan fait aussi appel au De Magnifico de Saint-Augustin, fait appel au De Trinitate. Mmh. Et est-ce qu'il n'y a pas chez Saint-Augustin, je dirais, justement, cette rencontre d'une expérience la plus intime, tel qu'il l'a, oui. il l'a rapporté dans les confessions, et en même temps d'un effort théologique absolument
oui,
remarquable.
Tout à fait. Enfin, il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect de cette expérience que Saint-Augustin est un des premiers, enfin, dans l'histoire, à avoir présenté les confessions. Et d'un autre côté, un effort de pensée, tout à fait radical. Vous évoquiez le De Trinitate. Je pense que le De Trinitate est une œuvre que Lacan a lue, méditée, et tout à fait fondamentale d'un point de vue théorique, non plus seulement d'un point de vue expérimental comme les confessions, mais d'un point de vue théorique également. Je pense que quelque chose comme la Cité de Dieu est une œuvre qui reconstruit une sorte d'histoire de la pensée, d'histoire du monde, d'histoire, et qui a certainement marqué, simplement par son effet interprétatif, marqué Lacan. Là, je crois que nous avons tous ces aspects, et également quelque chose, un texte qui est tout à fait fondamental dans la mesure où Lacan a pu s'en inspirer, c'est le De Magistro. De Magistro, qu'en 1954, il fait commenter par le père Bernhardt à son séminaire, en 1954, le De Magistro, c'est-à-dire la place du maître et qui pose la question d'une hiérarchie intellectuelle, une hiérarchie de pensée, de la place de celui qui est le maître et de ses disciples. Dans cette date 1954, lorsque Lacan fait commenter le De Magistro, il y insiste, il y a de longues pages dans la publication du séminaire, bien, je crois que nous avons là aussi une des sources, sinon une des sources, du moins un des textes qui a pu vivifier et nourrir la réflexion de Lacan, sa réflexion et sa pratique également.
Mais alors, Gérard, lorsqu'on s'intéresse à ce thème de rapport de Lacan au religieux et à la théologie dernière, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi s'entendre sur les mots? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par religieux et qu'est-ce qu'on entend sous le mot Dieu? Parce qu'on a l'impression que souvent, il parle du mot Dieu tel qu'il est présenté par les églises, je dirais, et qu'à d'autres moments, il parle du mot Dieu tel que c'est défini par la pointe même de la théologie, c'est-à-dire le moment où la théologie dit que de Dieu, elle ne peut rien dire. Et on a l'impression que c'est quand même pas la même chose.
Oui. Quelle conception, vous savez, chacun, les athées compris, ont une certaine conception de Dieu. Je ne sais pas quelle était la sienne, ceci. En tout cas, quelle était la conception qui se faisait de Dieu. Il en parle tout de même quand il aborde la Bible, par exemple, dans son rapport à la Bible. Il dit, voilà, le texte biblique, contrairement au texte aristotélicien, est un Dieu qui intervient dans la vie des hommes. Et contrairement au grand moteur, la grande horloge aristotélicienne. Il avait beaucoup de sympathie pour la théologie négative, dont il avait, je crois, quand même une vision partielle et partiale. Pour lui, la référence était donc Maître Eckhart, la théologie apophatique. Il ne s'est pas aperçu qu'avant Maître Eckhart, il y en avait, par exemple, Maïmonide, peut-être celui, l'auteur, qui a défini avec une rigueur presque académique, une espèce de manuel de ce que c'est que la théologie négative dans le Guide des égarés. Il consacre une soixantaine de pages, poussant la chose jusqu'à ses extrêmes limites. disant même que le mot « existence de Dieu » n'a pas beaucoup de sens. Déjà, de l'anthropomorphisme. On caresse de très très près l'athéisme, un véritable athéisme, on pourrait dire. En tout cas, des sentiments que le sujet parlant éprouve à l'égard de Dieu, se déduit toute une clinique. Par exemple, toute une clinique de la dépression, puisque cette clinique dépend de la question du surmoi, et qu'il qualifie toujours. Pour lui, le surmoi n'était pas seulement cette instance régulatrice et cette instance morale, il disait que le surmoi est obscène et féroce. Et le nœud de ce surmoi obscène et féroce, c'était la haine de Dieu.
Vous dites dès 5 ans, il disait plus ou moins, dit-on, je hais Dieu.
Oui.
Mais de se dire, mais
en même temps,
alors qu'il provenait quand même d'un milieu catholique, il a reçu une éducation catholique, son frère était ce que nous savons,
bénédictin.
Et donc on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, de dire, mais alors, qui avait-il en lui, pourquoi haïssait-il Dieu ainsi?
Moi, j'y crois pas trop à cette insistance, par rapport à Freud, par exemple, c'est quand même... Chez Freud, on ne trouve pas cette omniprésence de cette référence à Dieu, aux auteurs théologiques. On la trouve, mais beaucoup plus... Et puis, que fait-il de Dieu? Freud, il en fait un totem, un père primitif, un monstre assassiné par ses enfants. Il m'est difficile d'interpréter les paroles de Lacan, ce serait bien prétentieux, et suivant l'adage, on n'analyse pas le père. Mais apparemment, ça sent l'amour, tout ça. Cet attachement qu'il a à ces questions. Vous savez, je vais vous prendre dans un autre domaine, le domaine politique. Lacan, dans les années 68-69, a joué aux gauchistes. Même plus tard, on avait l'impression que c'était un maoïste. Lacan était un être quand même, il faut bien... Enfin, tel que moi, personnellement, mon opinion là-dessus, c'était quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Et ce n'est pas le commun des mortels. Et il a joué aux gauchistes parce qu'il avait des liens personnels, même familiaux, avec certains maoïstes. Enfin, il avait beaucoup de sympathie pour la petite bande maoïste de l'École normale supérieure. Et il avait certainement le projet de faire en sorte que cette petite bande ne sombre pas dans un terrorisme à l'allemande, ou que cette génération ne soit pas une génération perdue. Il a donc joué le gauchiste pour les attirer à lui, et il a réussi parfaitement. Ce qu'il en est advenu par la suite, c'est une autre affaire. À mon avis, il s'est bien planté, mais... Est-ce que sur le plan religieux, il aurait joué un rôle analogue, jouant l'athée, etc., et en même temps qu'il encourageait les gens à lire ces grands textes théologiques? C'est quand même bizarre, je trouve. Chaque fois que je parlais de manière sens véritable, quoi, parole pleine, comme il disait, enfin... C'était pas pour lui faire d'un texte talmudique ou religieux quelconque, d'un grand texte. Il m'écoutait avec un intérêt, et pas seulement moi, j'ai des témoignages d'autres personnes. Et brusquement, ses yeux s'allumaient, c'était son truc, et ça l'intéressait beaucoup. Il a noué une longue amitié avec une dame dont j'ai découvert l'existence et dont j'ai parlé dans mon dernier livre, qui s'appelait Olga Katounal. Elle lui disait « La psychanalyse ne m'intéresse pas », elle lui disait cette dame. Et lui, il disait « Ne vous inquiétez pas, moi, bien d'autres choses m'intéressent ». Et ce qui l'intéressait chez cette dame, c'était la théologie. C'était les ouvrages de mystiques juifs qu'elle possédait. Donc vous voyez comment ce n'est pas ni tout noir ni tout blanc. Cette question l'a habité incontestablement.
Oh.
j'évoquais tout à l'heure Baruzzi et l'approche des textes mystiques, qu'il s'agisse de Jean de la Croix par exemple, Thérèse d'Avila ou d'autres, comme des textes, comme une littérature dans laquelle l'expérience, c'est l'expérience de création et d'élaboration à la fois de la pensée et des textes qui rendent compte de cette pensée. Lacan, pendant un certain temps, je crois, serait assez fidèle à cette tendance. Les mystiques, ce sont les écrits, il cite Saint Jean de la Croix, il cite Adouer d'Anvers constamment, il cite Angelus Silesius, et cela de façon constante. Or, je suis tout à fait frappé de voir chez Lacan, il faudrait voir sous quelle influence et quels en sont les échos, un changement, peut-être pas une rupture, mais un changement assez radical en 1971 avec le séminaire Encore. En 1971, je suis extrêmement frappé de voir Lacan s'appuyer sur l'expérience de Sainte Thérèse d'Avila. Là, jusqu'ici, rien d'étonnant. Mais lorsque Lacan s'appuie sur Sainte Thérèse, que nous dit-il ? Il nous dit-il « Allez à Rome, allez voir la statue du Bernin ». Ce qui me paraît, ce qui m'a toujours paru extrêmement surprenant. Cette statue du Bernin est une statue élaborée un siècle après la vie de Sainte Thérèse par un artiste, un très grand artiste, qui nous donne là une statue, une œuvre d'art qui est le résultat de son expérience d'artiste et non pas du tout son expérience de l'œuvre de Thérèse d'Avila, une œuvre détachée complètement du texte de Sainte Thérèse. Et en 1971, c'est comme si Lacan nous disait « Nous ne lisons pas les textes, le mystique pour nous ce n'est pas le texte, c'est ce personnage sur lequel l'expérience artistique a créé une œuvre qui nous permette d'aller d'un coup d'œil. » Lacan nous parle d'un coup d'œil, on voit ce qu'est l'expérience mystique. Il a des phrases absolument stupéfiantes en nous disant que cette statue qui et ce groupe avec l'ange tenant la flèche qui est reproduite sur les éditions courantes du séminaire Encore est en quelque sorte, cette méthode est en quelque sorte en contradiction avec tout ce qu'était la tendance que j'appellerais entre guillemets littéraire. Il n'y a pas la moindre allusion à un texte de Thérèse d'Avila dans ce séminaire de Lacan. Thérèse d'Avila, c'est l'expérience d'un artiste qui est arrivé à nous faire comprendre ce qu'était l'expérience de la mystique.
Alors, la question que vous soulevez, Jacques Lebrun, moi je sais, m'a toujours posé question. Je veux dire par là que lorsque Lacan fait référence à Sainte Thérèse d'Avila, à travers la statue du Bernin, vous avez tout à fait raison, immédiatement après, il fait appel à Saint Jean de la Croix. Oui. Et je pense qu'il fait appel au texte de Saint Jean de la Croix, oui. Parce qu'il dit « ceux qui ne sont pas encombrés du phallus » en parlant de Saint Jean de la Croix. Oui. Et là, on voit très bien que c'est le Saint Jean de la Croix du cantique spirituel qui se parle au féminin, reprenant le cantique des cantiques, etc. Donc on a l'impression qu'il fait référence au texte. Et je veux dire que la référence à Sainte Thérèse d'Avila, dans la mesure où c'est au Bernin, je sais que moi, m'a toujours posé problème, la suite, en disant les mystiques, elles l'éprouvent, elles ne peuvent rien en dire, elles n'en savent rien. Or, lorsqu'on lit Sainte Thérèse d'Avila, j'ai l'impression quand même qu'elle en sait quelque chose.
Oui, elle en sait, elle en exprime, elle nous présente, et on peut toujours s'imaginer et s'étonner comment Lacan n'a-t-il pas tiré du Château de l'âme, par exemple, dans cette sorte de plongée à l'intérieur de la structure spirituelle de l'âme, comment Lacan n'a pas été sensible, enfin n'a pas tiré de ce texte tout à fait fondamental au sens étymologique du mot de Thérèse d'Avila, quelque chose qui l'aurait éclairé justement sur cet itinéraire intérieur, cet effort peut-être désespéré, peut-être effectivement est-ce qu'un effort qui n'aboutit pas ou qui ne peut pas aboutir, mais enfin l'effort lui-même est quelque chose d'extrêmement frappant. Et c'est vrai, pour Lacan, Jean de la Croix devient l'auteur d'une œuvre, l'auteur de la nuit obscure, comme il dit. Ceci dit, Lacan nous dit que la nuit obscure, personne n'y a jamais rien compris. Et donc, c'est pour cela qu'ensuite, il s'écarte et il nous dit qu'il valait mieux lire Adouer que Jean de la Croix. Mais, enfin, toujours est-il que, dans le cas de Jean de la Croix, vous avez raison, Jean de la Croix, pour Lacan, ce n'est pas l'expérience de ce carme qui a souffert ce que nous savons, prisonnier, etc., mais c'est l'auteur du Cantique spirituel, c'est l'auteur de ce commentaire. Alors là, la différence de traitement, en quelque sorte, de ces deux grandes figures de la mystique moderne, Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix, la différence de traitement entre l'un et l'autre, non pas simplement qu'ils mettraient l'un au-dessus de l'autre ou qu'ils privilégieraient l'un par rapport à l'autre, mais le fait que la méthode même d'approche de l'œuvre de l'une ou de l'autre est radicalement différente. Fait effectivement problème.
Une question qui se pose, Jacques Lebrun, c'est de voir que la référence à la mystique chez Lacan, c'est soit le mouvement des Béguines, pour aller vite, avec la touche d'envers comme figure de proue, c'est soit l'école espagnole du XVIe siècle et l'école française de spiritualité du XVIIe. Alors, si je m'attarde sur cette dernière, on se dit que c'est quand même quelque chose d'extrêmement particulier, puisque je dirais que l'école de spiritualité française, quand même, est très sanjuaniste ou très thérésienne. Et puis, on sait comme aujourd'hui, le carme espagnol a essaimé à Bordeaux, puis de Bordeaux sur le reste de la France. Et on se demande pourquoi est-ce que Lacan a eu une telle passion, je dirais, en fin de compte, pour l'école de spiritualité française.
Oui, encore qu'il la connaisse moins, enfin, qu'il en parle moins que l'école espagnole. Alors, faut-il y voir le fait que, dès sa jeunesse, l'œuvre marquante et les débats marquants qui ont élaboré vraiment l'histoire de la mystique dans ces années 20, c'était l'œuvre de Baruzzi d'un côté, l'œuvre de l'abbé Bremond de l'autre. Une chose qui a pu jouer aussi, je crois, une influence qui n'est pas à négliger, c'est le fait que Lacan a été un certain temps assez proche des courants d'études de la mystique qui sont les études carmélitaines. Les études carmélitaines, c'est à la fois une revue, c'est un lieu dans lequel avaient lieu régulièrement des colloques, des rencontres, c'était un lieu qui était marqué par son fondateur, un carme, le père Bruno de Jésus-Marie. Lacan et un certain nombre de ceux qui ont été proches de Lacan ont été très proches de ce milieu des études carmélitaines. Il ne faut pas oublier qu'en 1954, Lacan avait participé au congrès de psychologie religieuse qu'avait organisé le père Bruno de Jésus-Marie et les études carmélitaines. À ces études carmélitaines, à ces congrès, à ces rencontres, participait le père Bernard, jésuite, François Dolto, qui a plusieurs fois collaboré à ces rencontres de ce qu'on appelait psychologie religieuse à l'époque. Et c'est tout récemment, c'est il y a un an, je crois, un an ou deux, que l'on a publié les notes prises à l'audition de la conférence présentée par Lacan à ce congrès de 1954 des études carmélitaines. Nous n'avons pas les interventions orales que Lacan a faites, mais nous savons que là, il y avait particulier Mircea Eliade, le père Lucien Marie de Saint-Joseph, il y avait un certain nombre de gens et il y a eu un débat extrêmement vif, c'était le thème général, c'était le symbole. Et ce texte de Lacan, de 1954, même si nous n'avons que la version à l'audition, mais la version a l'air d'être assez bien prise, est, je crois, tout à fait intéressante dans la mesure où elle marque un point d'aboutissement d'une longue familiarité avec un certain nombre de gens qui fréquentaient ce milieu des études carmélitaines, et aussi un point d'arrêt. Le fait que Lacan n'ait jamais publié son texte, qui n'ait pas voulu le publier, nous avons l'impression que c'est en quelque sorte un point final ou un point de rupture avec tout un milieu avec lequel Lacan avait pratiqué, avait rencontré certainement dès les années d'avant-guerre et pendant la guerre. Les quelques échos que nous avons des rencontres de Lacan en particulier qui fréquentait le milieu de Dieu vivant et de Marcel Moret, nous avons là un certain nombre de fils, nous n'avons pas l'histoire, mais nous avons un certain nombre de fils qui nous donnent donne en quelque sorte des repères historiques pour comprendre les rapports de Lacan avec les milieux, les mouvements, les œuvres dans lesquelles se développait, dans le catholicisme, la réflexion sur la mystique. Et également les articulations, enfin les moments, 1954, c'est dans la vie de Lacan, c'est quand même un moment, une époque tout à fait fondamentale. Et je crois qu'il y a là un retournement, enfin ou tout au moins une prise de distance. C'est également ce qui est assez frappant dans le sort qui a été fait aux différents textes. Chacun a republié son texte après ce colloque de 1954 et chacun dans son milieu sans que se forme une sorte de consensus ou de groupe ou de milieu où aurait pu s'élaborer peut-être une pensée collective sur la mystique. C'était plutôt le signe d'un éclatement ou le signe de différence et d'opposition que le signe d'un consensus même provisoire.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une difficulté avec Jacques Lacan, Jacques Lebrun, qui est qu'il est parfois pas très facile de le suivre dans la mesure où en fait on voit très bien qu'il évolue au fur et à mesure de son travail et que donc il n'y a pas un bloc Lacan, si on peut dire, il y a différentes époques. Je pense par exemple à son approche de la psychose, on voit très bien qu'entre sa thèse de médecine et puis le séminaire 23 sur le symptôme, il a quand même beaucoup évolué sur la psychose. Ou sur l'amour, on voit bien qu'il y a je dirais trois théories différentes de l'amour qui viennent les unes après les autres. Est-ce que son rapport à la théologie et à la mystique ne serait pas du même ordre?
Oui, certainement.
Il y a une histoire.
Certainement, il y a une histoire et Lacan, je crois, ne peut se comprendre, ne peut se lire que de façon historique. C'est en le replaçant à certaines époques, à certains... en rapport avec certains milieux, avec des œuvres. Nous parlions tout à l'heure de Adouari d'Anvers, mais il est extrêmement frappant que Lacan a découvert Adouari au moment où a été publié par Dom Porion, le Chartreux, en France, la traduction de ses écrits. Lacan est tributaire également des publications, est tributaire de ce qui se fait, de ce qui s'écrit, de ce qui se pense à un certain milieu. Il y a son évolution personnelle, l'évolution des milieux dans lesquels il circule. Et c'est certain que ses rapports avec la mystique sont très différents à l'époque de sa thèse, à l'époque justement de charnière, je crois, de 1954, et ensuite à l'époque du séminaire encore. Et il est un peu vain de vouloir réduire à l'unité, de vouloir réduire à une théorie parfaitement organisée et construite, ce qui est une pensée en perpétuelle redécouverte, perpétuel mouvement, sous l'effet de lecture, de discussion et également de rencontres, au risque même de le voir se contredire. Ce que nous disions tout à l'heure sur le séminaire encore, il y a, je crois, chez Lacan, et ce n'est pas scandaleux, des contradictions. C'est peut-être aussi une des grandeurs de Lacan d'avoir continuellement remis en cause et d'avoir continuellement rediscuté, retravaillé des questions sur lesquelles il n'apportait pas de solution ou de système définitif.
Quand on lit Lacan et quand on l'écoutait, maintenant on ne peut que le lire, bien que circule un grand nombre d'enregistrements de sa voix, et c'est très différent, la voix, les textes dits et la platitude du texte imprimé. Alors, il disait que quand il parle, il est en position d'analysant, et nous sommes, nous, qui l'écoutons, ou qui le lisons, mais surtout qui l'écoutions, nous sommes en position d'analyste. Et alors dans cette position-là, bien qu'on ne peut pas analyser le père, on voit bien que son discours est vraiment très très infiltré de références, d'allusions, quelquefois très subtiles. Il faut connaître un peu la théologie pour dire tiens, là il fait allusion à tel ou tel auteur, tel ou tel courant. Et cette pensée théologique est très prégnante dans son discours. Récemment, j'ai regardé une émission à la télé, vous savez, cette série d'émissions sur le christianisme, et là m'est venue à l'idée que quand ils ont parlé des gnostiques, j'avais l'impression d'entendre parler de Lacan. Je me suis demandé s'il n'y avait pas chez Lacan, comme ça, un côté gnostique. Sa relation à Dieu, auquel il ne croyait pas, mais dont il parlait si souvent, c'était une relation de haine. Il disait, la racine du surmoi, c'est la haine de Dieu. Il se vantait même que lorsqu'il avait 5 ans, il avait dit « Je hais Dieu ». Bon, on lui laisse la responsabilité de ses sentiments. Et en même temps, sa position, c'était de dire que le salut, entre guillemets, provient de la connaissance de soi, de faire une analyse, au fond. Position qui, quand même, a un petit côté gnostique. Je pointe ça comme ça en passant, parce qu'il me semble que le théologique chez Lacan, très bariolé. C'est une espèce de caméléon théologique, on peut dire, parce que ses références à des horizons très différents, aussi bien la théologie chrétienne que la théologie juive, voire bouddhiste, sont très variées. Il avait une affection très particulière pour certains auteurs, en particulier pour Saint-Augustin. Saint-Augustin était pour lui, je ne sais pas si c'était son livre de chevet, mais il a cessé de revenir sur les confessions. J'ai vu récemment une nouvelle traduction, on dit les aveux maintenant. Enfin, un auteur a appelé ça les aveux. Bon. Donc, Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin, constamment donc. Et là, on voit bien que, dans la position d'analysant où il est quand il parle, c'est son armature intellectuelle qui revient, qui s'est forgée dans son enfance, dans son adolescence, dans le collège jésuite qu'il a fréquenté, et également dans toutes ses lectures, qui est très, très engagé dans la littérature théologique.
Est-ce qu'il n'y a pas un rapport, je dirais, de Lacan, dans le travail de sa pensée, avec ce qu'il est convenu d'appeler la théologie négative? Je veux dire par là qu'on voit quand même arriver plusieurs fois l'école Accuse. Est-ce qu'on peut véritablement comprendre l'école de mystique espagnole s'il n'y a pas l'arrière-fond de la théologie négative? Et est-ce que ce qu'il appelle le réel au plus profond, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de, justement de tout cela qui échappe à toute saisie, à toute pensée, à toute...
Oui, je pense que la théologie négative et la place que la théologie négative a pris dans la théorie mystique est tout à fait importante. On peut comprendre effectivement cette pensée. Au XVIIe siècle, l'empire même qu'exerce la pensée de Denis l'Aréopagite est considérable. Je parlais tout à l'heure de l'effondrement de cette pensée. À la fin du XVIIe siècle, la source même de cette théologie mystique, Denis l'Aréopagite, a été radicalement contestée. On s'est aperçu que ça n'avait plus aucun rapport avec le disciple de saint Paul. Donc la mystique a perdu au XVIIe siècle ce qu'était le centre même de sa doctrine, c'est-à-dire le dionysisme, la pensée de Denis l'Aréopagite. Du jour au lendemain, pour Bossuet, ce n'est plus qu'un illustre inconnu. Mais ça ne veut pas dire que la théologie négative, loin de là, est disparue et perdue sa pertinence. Saint Jean de la Croix ne peut se comprendre, je crois, que dans le cadre de cette théologie négative. Et également, dans les années 30, elle revient et le nombre d'œuvres, en particulier les travaux fondamentaux sur Nicolas de Cuse que vous avez évoqués, les travaux qui commencent à s'élaborer, comme les travaux vraiment scientifiques sur Denis l'Aréopagite, sont des travaux qui datent des années 30 et 40. À ce moment-là, je crois, on a pu prendre la mesure de l'importance de la théologie négative et également on a pu aborder de façon véritablement sérieuse avec la radicalité des textes originaux qui enfin ont été publiés et publiés sérieusement avec également des grands travaux, grandes thèses. Et je crois que Lacan se trouve lui-même aussi pris dans ce mouvement de redécouverte de la théologie négative et certainement pour lui ça a une influence considérable. Je crois que Lacan, là, est très marqué par cette place, disons, de la négativité dans la pensée, plus que par une influence précise de telle pensée, de tel penseur, de Nicolas de Cuse, même s'il le cite, même s'il l'utilise. Je crois que cette importance de la négativité même dans la pensée, je crois, est peut-être plus importante que le rapport documentaire à telle ou telle source historique que l'on pourrait appeler comme source d'une pensée négative.
Oui, mais lorsque je vous pose cette question, Jacques Lebrun, c'est parce que je pense surtout aux structures de la pensée, puisqu'on connaît par exemple bien le rapport de Lacan à Hegel. Oui. Bon, Viakovlev, bien entendu, mais enfin à Hegel. Bon, et on sait très bien que Hegel fait le panégyrique de Proclus en disant c'est le premier qui a senti ce travail négatif, même avant que toute chose se, et que à la limite c'est le négatif qui fait que quelque chose puisse exister. Or Proclus, ça a été le maître de Denis de l'Aéropagite, autant qu'on en sache tout au moins. Donc on a l'impression que là qu'il y a une structure de pensée qui est absolument fondamentale.
Oui, certainement. Enfin, là, vous avez raison. Je crois que c'est via Hegel, cette pensée a marqué Lacan, car on serait trop exagéré l'importance de Hegel pour Lacan, comme d'ailleurs pour de nombreux hommes de sa génération.